présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Effectivement, bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. En Chine, le défi lancé aux autorités sanitaires sur le front de l'épidémie de coronavirus se double désormais d'un défi lancé au pouvoir politique qui va devoir prendre au sérieux un mouvement de colère très sensible depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux suite à la mort d'un jeune médecin. Il avait été l'un des premiers à lancer l'alerte, Dominique André, au début de ce journal. En Allemagne, les dégâts causés par l'élection mercredi du président de Thuringe dans le centre du pays avec les voix de l'extrême droite, ces dégâts sont encore très sensibles. Le président élu de la région a démissionné, mais Angela Merkel et sa successeur à la tête de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, sont déstabilisés. Correspondance à suivre de David Philippot. En France, la protestation tout à l'heure devant le ministère de l'Éducation nationale à Paris d'élèves ayant reçu un zéro aux épreuves de contrôle continu du nouveau bac en histoire géo. Damien Mestre les a rencontrés. Et puis l'enquête de cette édition sur les risques souvent liés à la précipitation des opérations chirurgicales contre l'obésité. Ce sera avec Laetitia Chérel à la fin de ce journal. En Chine, donc, l'émotion et la colère d'une partie de la population, toujours très palpable via les réseaux sociaux, alors que l'on dénombre désormais plus de 30 000 contaminations, dont l'immense majorité sont recensées dans la province de Hubei, et que le bilan officiel du coronavirus fait état de 636 morts. Le décès confirmé cette nuit du docteur Li Wenliang suscite l'indignation et questionne une nouvelle fois le rapport de la population au pouvoir politique. Li Wenliang avait été l'un des premiers à avoir donné l'alerte au mois de décembre, et non seulement il n'avait pas été entendu par les autorités, mais il avait également été arrêté et brièvement emprisonné. Depuis Pékin, la correspondance de Dominique André.
Entendez-vous le peuple chanter, comme elle le fut pour les manifestations de Hong Kong, la chanson phare de la comédie musicale Les Misérables est reprise en Chine continentale ce soir. C'est une révolte en ligne qui se poursuit sur les réseaux sociaux après la mort du docteur Li. Sa maman, qui a été contaminée aussi par le virus, est sortie de l'hôpital. Elle a tout de suite réagi à la mort de son fils.
Je n'ai pas vu mon fils quand il était traité à l'hôpital et pendant les derniers soins d'urgence, je ne l'ai pas revu. C'est très triste que nous n'ayons pas été autorisés à le voir. À cause de cette maladie contagieuse, ses cendres ont été entreposées pour le moment ailleurs.
C'est la tristesse aussi chez les médecins. Le docteur Li est un héros qui a donné l'alerte au prix de sa vie, dit un confrère. Zhang Wang, pneumologue expert officiel, lui rend hommage.
Je pense que nous devons rendre hommage à ces 8 personnes qui ont donné l'alerte. Elles sont hautement appréciées pour leur grande sagesse et leur compétence.
Pékin a dépêché une équipe d'enquêteurs à Wuhan. Les sanctions locales ne devraient pas tarder à tomber, mais le défi est double pour le gouvernement central, enrayer l'épidémie et la contestation.
Toujours concernant le coronavirus, plusieurs dizaines de nouveaux cas de contamination ont été recensés aujourd'hui. Parmi les 4000 passagers d'un navire de croisière placé en quarantaine au large de Yokohama, au total 61 passagers sont contaminés à bord. En Allemagne, la CDU, le parti d'Angela Merkel, toujours très ébranlée 2 jours après l'élection surprise d'un de ses alliés du FDP à la tête de la région de Thuringe grâce aux voix de l'extrême droite et du parti AfD, ce qui constitue l'erreur fatale de Merkel, comme le titrait ce matin le quotidien Die Welt, c'est de ne pas avoir été assez ferme en ce qui concerne les consignes de vote et de s'être laissé peut-être berner par l'extrême droite. Depuis la levée de bouclier qui a suivi l'élection mercredi, le président élu, Thomas Kemmerich, a démissionné. Angela Merkel a pris la parole pour dénoncer cette alliance contre nature, mais aux côtés de sa dauphine AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, la chancelière allemande, fait bel et bien figure de victime collatérale de ce scandale. À Berlin, David Philippot.
Ce midi, devant la presse, Annegret Kramp-Karrenbauer est apparue les traits tirés, les yeux cernés, car le fiasco de cette semaine, c'est aussi le sien. Pendant 3 mois, les partis démocrates ont été incapables de s'entendre pour former une coalition en Thuringe. Pour la CDU locale, le diktat imposé par Berlin, c'est-à-dire pas d'alliance avec l'extrême droite ni avec l'extrême gauche, a figé la situation, un blocage dont l'Alternative pour l'Allemagne a profité pour faire bugger le système. Le parti conservateur est tombé dans le piège et sa crédibilité est mise à mal, et il aura fallu que la chancelière Merkel, en voyage en Afrique australe, prenne la parole, trouve les mots pour ramener de l'ordre. Annegret Kramp-Karrenbauer, qui lui a succédé à la tête du parti, voit son autorité écornée. Les sondages sanctionnent la CDU, qui perdrait 10 points dans les urnes si les élections avaient lieu bientôt en Thuringe. Rien n'est moins sûr. Peut-être que les démocrates finiront par s'entendre sur un nom au sein du Parlement déjà élu. La chef des conservateurs l'a proposé ce midi aux sociaux-démocrates et aux écologistes. Sans chance réelle de succès, la paralysie guette à nouveau. Elle ne profite à personne, sauf à l'alternative pour l'Allemagne.
David Philippot à Berlin pour France Culture. Pourquoi ne pas associer les pays européens qui le souhaitent à la stratégie française de dissuasion nucléaire? Une telle perspective a en tout cas été évoquée tout à l'heure par Emmanuel Macron dans un discours prononcé à l'école de guerre à Paris. Depuis le Brexit, la France est le seul pays de l'Union européenne à disposer de la dissuasion nucléaire. Un peu moins de 300 têtes, a indiqué tout à l'heure le chef de l'État, qui est aussi chef des armées. Et il a par ailleurs exhorté les Européens à développer une plus grande capacité d'action face aux désordres mondiaux en participant aux futures négociations sur le contrôle des armements. Depuis hier, les soldats de la force Barkhane ont neutralisé une trentaine de djihadistes au Mali dans le cadre de trois opérations militaires distinctes. C'est ce qu'annonce à l'instant l'état-major de l'armée française dans un communiqué. En Cisjordanie, un manifestant palestinien a été tué aujourd'hui par les forces israéliennes lors d'affrontements près de la ville de Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie occupée. En France, un zéro au bac pour les lycéens qui bloquent leur établissement le jour des épreuves du contrôle continu. C'est la menace qui est pointée par certains proviseurs et on n'est d'ailleurs pas resté au niveau de la menace le 20 janvier dernier au lycée Valin à La Rochelle. Ce jour-là, une quinzaine d'élèves se sont vus attribuer un zéro en histoire géo dans le cadre de l'épreuve E3C. Ces épreuves qui se déroulent parfois dans un climat tendu, les lycéens concernés dénoncent une situation totalement injuste. Bonsoir Damien Mestre.
Bonsoir.
Certains de ces lycéens étaient réunis d'ailleurs cet après-midi pour protester directement devant le ministère de l'Éducation nationale avec leurs parents.
Oui, une situation injuste selon ces élèves car aucun d'entre eux ne comprend vraiment pourquoi eux ont été sanctionnés. Tous décrivent une journée d'épreuves chaotique où plus d'une centaine d'élèves n'ont pas composé et ont manifesté. Louis, élève en première, se souvient de la scène.
Moi je suis arrivé, il y a beaucoup de monde dehors, les portails sont bloqués, on peut pas y accéder sauf en escaladant les grilles à côté. C'est inaccessible et alors que la veille, notre proviseur nous avait assuré qu'on pourrait accéder à l'établissement.
C'est bien là le cœur du problème selon eux. Sur la centaine d'élèves bloqués devant le lycée, seulement une poignée n'ont pas eu le droit d'aller au rattrapage. Méline en fait partie, elle dénonce une sanction totalement arbitraire.
J'ai jamais eu de problème avec le lycée ni quoi que ce soit. Bah, je me suis dit pourquoi que 15 et puis j'ai trouvé ça vachement injuste. Je vois pas pourquoi moi et pas mes copines, étant donné que j'étais toujours avec elles pendant les manifestations. Mes copines ont pu passer le rattrapage et pas moi.
La mère de Méline, elle non plus, ne comprend pas la situation. Elle est venue accompagner sa fille et elle ne supporte plus ce climat pesant autour des épreuves du nouveau baccalauréat.
Ça fait une semaine que ça dure et je suis en colère et j'ai pas de mots tellement c'est injuste.
Une exaspération que partage la FCPE. La fédération était reçue par le ministère aujourd'hui. Elle exige que les proviseurs arrêtent de faire peser des menaces de sanctions sur les élèves, qu'ils soient bloqueurs ou non. Et on devrait connaître lundi le sort de ces 15 lycéens.
Merci Damien Mestre. Apple condamné à verser 25 millions d'euros en France pour pratiques commerciales trompeuses par omission. Le montant de cette amende a été fixé dans le cadre d'une transaction pénale, a indiqué tout à l'heure par communiqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'enquête qui aboutit ainsi avait été ouverte en janvier 2018 à l'initiative de l'association Hop, qui accuse Apple de ralentir volontairement ses anciens smartphones. Précision de Lucie Loconi.
Décision historique, oui, mais surprenante, non. En 2017, Apple avait déjà reconnu freiner volontairement les performances de son téléphone. En revanche, le montant de l'amende, 25 millions d'euros, c'est du jamais vu sur cette question de la durabilité des biens. L'investigation ouverte à la demande de l'association Hop s'appuie sur 15 000 témoignages. Laetitia Vasseur est cofondatrice de Halt à l'obsolescence programmée.
Le problème pour les utilisateurs, c'est que sur certains smartphones, la mise à jour engendrait des ralentissements et vous étiez largement poussé à faire cette mise à jour et la marque savait très bien que ça allait ralentir le téléphone. Vous allez devoir le renouveler, qu'il allait complètement dysfonctionner et donc c'est ça qui est décrié, c'est pour nous de l'obsolescence numérique.
Pour Loïc Tanguy, directeur de cabinet de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ce type d'amende peut faire évoluer les comportements des grands groupes.
C'est vrai pour Apple, mais c'est, je pense, aussi un signal qui est donné à toutes les entreprises. Ça va sans doute pousser les professionnels à être plus transparents sur toutes les questions de durabilité des biens. C'est aussi d'ailleurs le sens de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vient d'être votée. Et ça leur permettra, eux, de faire les choix qu'ils veulent pour avoir des biens plus durables s'ils le souhaitent.
L'association HOP ne compte pas en rester là. Elle a d'ores et déjà indiqué vouloir demander des dommages et intérêts pour l'ensemble des plaignants.
Lucille Oconi. C'est l'événement du jour sur la planète finance. La démission du patron du Crédit Suisse, le franco-ivoirien Tidjane Thiam, fait les frais de l'affaire d'espionnage qui éclabousse la deuxième banque suisse depuis plusieurs mois. Les explications depuis Genève de Jérémy Lanche.
Comme Mitterrand, les yeux dans les yeux, vous pouvez dire.
Les yeux dans les yeux.
Je ne savais pas.
Vous le dites. Bien sûr, je ne savais pas.
Interrogé en octobre dernier par la radio-télévision suisse, Tidjane Thiam répète qu'il n'a jamais ordonné la filature de son banquier star et rival personnel, Iqbal Khan. Ce dernier, passé à la concurrence, a porté plainte pour menace après avoir confronté des détectives privés qui le suivaient à Zurich. L'affaire fait les gros titres de la presse qui raconte en détail la querelle de voisinage qui oppose Khan et Thiam au sujet de leur luxueuse villa sur les bords du lac de la ville. Fragilisé, le patron de la banque botte en touche, mais concède dans le même temps que filer des employés n'est pas totalement nouveau dans le monde des affaires.
C'est une chose que j'hésite à dire, mais il arrive dans des entreprises internationales qu'on doit faire ce genre de choses.
Vous l'aviez déjà fait ?
Dans des vies antérieures.
Une enquête interne conclut à l'innocence du patron de la banque, mais son bras droit directement visé démissionne. L'affaire aurait pu en rester là, mais le scandale enfle encore avec les révélations sur l'espionnage d'un autre employé et le suicide d'un intermédiaire chargé de recruter les détectives privés. Arrivé avec fracas en 2015 à la tête d'une banque en difficulté, Tidjane Thiam joue le rôle de fusible, mais d'autres têtes pourraient encore sauter, selon les conclusions de l'enquête menée par le gendarme financier suisse. Une très mauvaise publicité pour Crédit Suisse, devenu la cible des militants pour le climat qui lui reprochent ses investissements dans les énergies fossiles, et alors que la presse révèle que la banque aurait également espionné Greenpeace.
Jérémy Lanche à Genève. L'Antarctique a connu hier en Argentine sa journée la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques dans la zone. À la mi-journée, sur la base Esperanza, la température a atteint 18,3 degrés, un record depuis 1961. Il fait normalement en février entre 0 et 1 degré à la pointe de cette péninsule. Bonsoir Pauline Renoir.
Bonsoir Benoît.
La question qui se pose maintenant de manière assez évidente, mais à laquelle il faut quand même essayer de répondre en toute rigueur scientifique, c'est de savoir si ce record est oui ou non un indicateur, un témoin du réchauffement climatique.
Alors oui et non. Oui, parce que ce sont des températures exceptionnellement chaudes pour le continent le plus froid, et non parce que la situation de la base Esperanza est très particulière. Son climat est plus océanique que polaire. Christophe Janton et chercheur au CNRS attaché au laboratoire de météorologie dynamique.
Là, on se trouve quand même dans une région un peu excentrée du cœur de l'Antarctique froid. On se trouve à la pointe de la péninsule. Il y fait moins froid. Il y fait d'autant moins froid qu'on est à plus basse latitude et qu'on est aussi dans un milieu très océanique par rapport à l'intérieur de l'Antarctique, évidemment. Donc on est très influencé par la chaleur de l'océan. C'est pas une région extrême du point de vue des températures pour l'Antarctique.
Christophe Janton voit à travers cet épisode un phénomène météorologique qui a déjà été observé là-bas.
C'est une combinaison d'effectivement un courant de grande échelle atmosphérique particulièrement favorable, un système de basse pression, haute pression qui canalise l'air à grande échelle, un air océanique chaud et humide, juste sur la pointe de la péninsule. C'est une combinaison de ces deux effets, principalement l'effet de réchauffement, l'effet de Föhn qui est responsable de ce précédent maximum à 17,5 degrés.
17,5 degrés, c'est le dernier record sur la base Esperanza. Il avait été enregistré il y a 5 ans. Selon Christophe Jantin, il faut s'attendre à une répétition de ces températures.
Jusqu'à présent, on voyait pas grand-chose se passer, justement parce qu'il y a tellement d'effets sur le climat qui se combinaient ou qui s'opposaient, c'était pas clair. Autant je pense que maintenant, on rentre dans une phase où on va commencer à avoir des signaux vraiment clairs de réchauffement climatique dans la région Antarctique. Faut pas oublier que l'océan austral qui isole l'Antarctique est un absorbant de chaleur formidable. Donc ça tamponne le réchauffement climatique, mais un jour ou l'autre, on va quand même le voir ressortir, d'autant plus que le ressort a été comprimé jusqu'à présent et qu'il va se détendre.
Et à 100 km de la base Esperanza, l'autre station scientifique Marambio a enregistré 14 degrés hier, record battu pour un mois de février depuis 50 ans.
Merci Pauline Renoir. Raphaël Nadal et Roger Federer s'apprêtent à jouer ce soir le Match in Africa, un match caritatif au Cap en Afrique du Sud, c'est du tennis. Un match dont les bénéfices seront reversés à la fondation de Roger Federer. Alors qu'en Afrique du Sud, le tennis a une image de sport d'élite, donc majoritairement réservé aux Blancs, la Fédération Sud-Africaine tente de faire changer les choses. Ce match en est une illustration, tout comme l'a été le week-end dernier le tournoi organisé dans le township de Soweto à Johannesburg en présence des deux meilleurs joueurs du pays, Kevin Anderson et Lloyd Harris. Noé Ochebaudin.
6-3, 3-6, 11-9 dans le super tie-break. Le score est anecdotique, tout comme la victoire de Kevin Anderson. Car l'important est ailleurs, selon le finaliste de Wimbledon 2018. Il s'agit de ramener la balle jaune dans les townships du pays.
L'important n'est pas nécessairement de former le prochain grand joueur professionnel sud-africain. La priorité est de changer la vie de nombreux enfants des couches populaires de plusieurs townships du pays. C'est le message que l'on veut donner à travers ce match.
Car oui, le tennis est populaire dans les townships. Lerato Moussenouri, 41 ans, entraîne les jeunes filles de Soweto. Selon elle, non, ce n'est pas juste un sport de blanc, c'est un sport seulement plus accessible aux blancs sud-africains.
C'était difficile pour moi à l'époque, car il n'y avait pas beaucoup de tournois, on n'avait pas les opportunités à cause du manque d'argent. Mais aujourd'hui, c'est possible pour les jeunes de participer aux tournois, car la fédération investit dans la formation.
La fédération a lancé des centres d'excellence dans 5 provinces du pays, des centres réservé aux jeunes issus des townships, comme Mohang, 12 ans.
Le tennis, c'est super cher, mes parents ne peuvent pas payer, c'est pour ça que je vais au centre d'excellence. Au centre, ils nous donnent les sacs, les raquettes, des maillots et des shorts pour les compétitions. Je n'avais pas cet équipement avant, je ne pouvais l'avoir qu'au centre.
La route est encore longue, à Soweto, les 2 millions d'habitants ne peuvent compter que sur une vingtaine de cours en bon état.
18h16 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service d'investigation de Radio France qui s'inquiète aujourd'hui aux dérives de la chirurgie de traitement de l'obésité. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir.
Ces interventions sont de plus en plus nombreuses et elles donnent parfois des résultats spectaculaires, mais elles peuvent aussi avoir de graves conséquences au point que le gouvernement envisage de mieux les réglementer.
Oui, parce qu'il faut savoir que pour se faire opérer, il faut théoriquement respecter certaines règles. Consulter plusieurs spécialistes avant l'opération, suivre une préparation psychologique, et tout ça doit prendre au minimum 6 mois. Or, de nombreux patients arrivent à convaincre des chirurgiens de se faire opérer plus vite. Et c'est ce qu'a fait Marie.
Le public, c'était très long en termes d'attente, plus long que ce que je pouvais supporter. Donc j'ai été taper à la porte du privé, voir ce qu'ils disent, si déjà les délais sont plus courts. Effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus court. J'ai pris un premier rendez-vous et déjà au premier rendez-vous, on m'avait donné l'accord de me faire opérer.
Et cet accord pour se faire opérer plus vite, certains chirurgiens peu regardants le donnent facilement. Alors, pour le vérifier, j'ai pris un rendez-vous dans une clinique où j'ai expliqué que ma sœur obèse voulait se faire opérer en 2 mois seulement. J'ai retranscrit mon entretien avec le chirurgien et je l'ai fait lire. Écoutez ce qu'il m'a dit.
Il y a 6 mois d'attente pour faire la chirurgie si on n'a jamais vu un nutritionniste. Votre sœur en a vu un ? C'était quand ?
C'était il y a 5 ans.
Oui, il y a 5 ans, c'est bon. La seule chose, c'est qu'elle doit avoir une lettre qui montre qu'elle a déjà vu un nutritionniste. Ou un mail même, qui dise qu'elle a eu des rendez-vous.
Donc ça prend pas 6 mois ?
Non. On va trouver un système pour éliminer cette histoire de 6 mois.
Alors ce type de contournement des règles est plus fréquent qu'on pourrait le croire. C'est ce que révélait d'ailleurs récemment un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales.
Un rapport de l'IGAS, Laetitia, qui précisait que ne pas respecter ce délai de 6 mois de préparation peut avoir des conséquences vraiment graves.
Effectivement, parce que si on n'a pas eu un suivi psychologique avant l'opération, on peut être victime de dépression, d'addiction et même, dans 3% des cas, ça peut aller jusqu'à une tentative de suicide. Et si on est mal opéré et si on est mal suivi après l'opération, ce qui est assez fréquent, on risque aussi d'avoir des carences alimentaires avec à la clé de lourdes conséquences, comme l'explique Anne-Sophie Joly, la présidente du collectif national des associations d'obèses.
Il faut prendre des vitamines à vie parce qu'une carence de vitamines vous emmène à des cas extrêmes, je dis bien extrêmes, de risque de maladies neurologiques irréversible, vous terminez en légumes parce que votre cerveau, qui est l'organe principal qui doit être alimenté, il n'a pas eu son carburant.
Et donc, Laetitia Chérel, le gouvernement veut que ça change.
Oui, le projet, c'est de n'autoriser que les établissements qui réaliseraient un minimum d'interventions par an. Alors, on parle d'un seuil de 50, une mesure qui s'impose en tout cas, selon le professeur Patou du CHRU de Lille.
On ne peut pas imaginer qu'une prise en charge soit optimale dans un centre qui fait 2 ou 3 opérations par an.
on a pu examiner dans les chiffres français que la mortalité dans les centres qui font moins de 50 était nettement supérieure, trois fois plus, que dans les centres qui en faisaient plus que 50. Donc on voit ici un équilibre raisonnable.
Et si ce seuil minimum était mis en place, cela voudrait dire que 250 établissements ne pourraient plus opérer de patients obèses en France.
Merci Laetitia Chérel. Votre enquête est à retrouver en longueur sur notre site internet franceculture.fr. On apprend à l'instant le décès de l'écrivain Pierre Guyotat, auteur de Coma ou des Joyeux animaux de la misère, prix Médicis pour Idiotie, récit autobiographique publié en 2018 chez Grasset. Pierre Guyotat avait aussi reçu un prix Femina spécial pour l'ensemble de son œuvre. Il est décédé à l'âge de 80 ans. C'est ce qu'on apprend auprès de l'agence France Presse depuis quelques minutes. Une perturbation arrivant de l'ouest traversera la France demain. Elle sera peu active d'après Météo France, mais entraînera une alternance entre éclaircies et passages nuageux, tout autant que quelques faibles pluies. Température de 12 à 17 degrés dans l'après-midi.